RMC.
Rendez-nous le chien.
Il est éleveur de moutons.
Moi, je suis dans le poulet.
Bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals.
9h midi.
Mais ça faisait deux fois chacal.
Il faudrait vraiment arrêter avec les noms d'animaux.
Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Oh putain, tu fais super bien le chien.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Kauter Ben Mohamed, qui est présidente de l'association Marseille en colère. Nous sommes avec David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix, et l'éducateur Étienne Liebig. On accueille.
Peut-être directeur aussi, parce que je
n'ai pas pensé pour éducateur, un directeur.
Directeur, ouais. Directeur,
on ne
sait pas de quoi. Voilà.
Et nous sommes avec le ministre des Transports, monsieur Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour, monsieur le ministre.
Tous.
Merci d'être avec nous pour nous aider à comprendre les absurdités.
Ça commence fort.
Ouais.
Ah oui.
Hein? Du protocole dans les transports.
Moi, j'ai un exemple concret, monsieur Djebbari. Je prends le train ce week-end, je vais à Marseille. Je prends le TGV.
Welcome.
En famille avec des enfants. À quel moment je peux donner un peu d'eau à mon fils, à manger? À quel moment on est dans le besoin impératif?
D'abord, la seule chose qui a changé, en vérité, ou qui va changer, enfin, qui a changé depuis lundi dernier, c'est le fait qu'on a suspendu la vente à bord et le service à bord. C'est la seule chose qui a changé. Donc, si vous allez à Marseille samedi ou ce week-end avec vos enfants, vous pouvez manger, vous pouvez boire si vous avez évidemment besoin de boire ou de manger. Il n'y a évidemment pas d'interdiction.
Il n'y a pas d'interdiction.
On en parlait avec madame.
La seule chose, c'est qu'on a suspendu
la vente à bord, comme on l'avait déjà
c'est
fait
parce
en juin dernier.
Jean Castex, au départ, Jean Castex avait dit qu'on n'aurait plus le droit de manger ni de boire les trains, même les
à longue distance. Pas ministre de transport.
Mais en pratique, ce qui se passe.
Donc en fait, on est revenu là-dessus.
Non, dévie en fait le propos du Premier ministre.
Non, mais c'est pas qu'on est revenu.
S'il vous plaît. Je vais vous ressortir la déclaration de Castex, si vous voulez.
Il y a une règle depuis mai 2020, quand on a déconfiné. Enfin, d'ailleurs, il y a une règle, c'est qu'on porte le masque dans les transports. L'idée, c'est d'essayer de le porter le plus possible, le plus souvent possible, parce que, notamment dans le cas de la variante Omicron, le virus circule et est très contagieux. C'est ça le sujet. Et donc, évidemment, on recommande de porter le masque le plus possible. Après, si madame a besoin de manger, si vous avez envie de boire, vous, évidemment, enfin, ce sont des besoins physiologiques.
On ne sera pas sanctionné par un contrôleur à ce moment-là.
Non, mais qu'est-ce qu'on essaie d'éviter? Et on a tous peut-être vu ça quand on prend le train, on essaie d'éviter les personnes qui restent avec le masque en bas pendant très longtemps. Et j'avais pris l'exemple du paquet de chips qu'on mange pendant une demi-heure, trois quarts.
C'est ça qu'on essaie. Nous a dit ici régulièrement qu'il faisait exprès de mettre très longtemps.
Je sais, mais
très longtemps pour
on avait parlé
chips,
avec lui
pour manger sa chips. Pour
donc c'est une mesure qui vise.
Donc en fait, c'est la longueur du mangeage de chips qui compte.
Comme il aime bien les polices, on a mis en place pour lui la police des chips, mais ça vise exclusivement.
Est-ce qu'on contrôle un peu plus, parce qu'il y aura bientôt le pass vaccinal, est-ce qu'on contrôle un peu plus le pass sanitaire? Parce que là aussi, on a une grande gueule, Didier Giraud, qui chaque semaine prend le train, qui n'a jamais été contrôlé sur son pass sanitaire.
On contrôle en moyenne entre 25 et 30% des trains, mais effectivement, on va un peu monter en puissance sur
le pass vaccinal.
Passe vaccinal et aussi parce qu'en fait, avec la SNCF a travaillé un peu comme Air France ou les opérateurs aériens l'ont fait pour lier le billet au document sanitaire. Ça permet d'utiliser les portiques et de gagner en fluidité. Donc on fait tout ça effectivement de concert.
Monsieur le ministre, nous en tant que citoyens, on a accès parce qu'on lit plein de trucs, donc on lit des fois des conneries, mais on lit aussi que Omicron est beaucoup moins mortel, létal, qu'il emmène beaucoup moins à l'hosto et dans des conditions de graves. Donc on a encore des choses qu'on ignore sur les enfants, etc. Mais en tout cas, voilà, on lit ça, qu'on a l'expérience anglaise, etc. Est-ce que vous, au sein du Conseil des ministres, comment, au moment où on sait que cet Omicron est en train de remplacer Delta, et donc, grosso modo, c'est quand même moins craignos, même si on va être beaucoup à l'avoir, comment vous pouvez prendre la décision de, par exemple, d'une quatrième dose, d'un pass vaccinal, etc. C'est-à-dire, comment ça se discute?
Mais en fait, chaque semaine, donc il y a un conseil de défense et on fait le point sur tous ces sujets. En ce moment, la particularité, c'est qu'on a à la fois le variant Delta, qui en fait reste la première cause aujourd'hui des réanimations. Donc c'est là-dessus effectivement qu'on doit essayer de se défendre. Et le vaccin, je crois qu'il y a eu un peu plus de 4 milliards de premières doses dans le monde. Donc
10 milliards.
En tout, 4 milliards de premières doses, 4 milliards de personnes qui ont reçu une première dose. Donc c'est considérable, c'est plus de 50, quasiment 60% de la population mondiale qui a reçu une première dose de vaccin. Et ce qu'on sait, sur Delta notamment, c'est que ça protège plutôt bien contre les formes graves. Donc ça, c'est objectif que la balance coût-bénéfice pour un individu, elle est très favorable pour de recevoir une dose de vaccin. Après, on a Omicron, effectivement. Ce qu'on fait de façon très pragmatique, c'est qu'on observe, puisqu'Omicron a plutôt démarré en Afrique australe, en Afrique du Sud, et les Anglais ont un peu d'avance sur nous, quasiment 3 semaines d'avance sur nous. Donc on a observé l'effet chez les Anglais, à la fois sur le nombre de cas, qui a beaucoup augmenté comme chez nous, sur le nombre d'hospitalisations, qui pour l'instant augmente, mais augmente, on va dire, modérément, et sur le cas des réanimations, qui pour l'instant, de la même façon, augmente modérément. Donc c'est tout ça qu'on essaie d'ajuster. Puis après, il y a la littérature scientifique. Il se trouve que des dizaines, des centaines, des milliers de chercheurs dans le monde cherchent à comprendre comment fonctionnent intimement les vaccins, quels sont éventuellement les effets secondaires, comment fonctionne l'immunité cellulaire, humorale, bref. Et ça, c'est un travail de quasiment tous les jours pour comprendre la littérature scientifique et ajuster autant que possible, à la fois oui. sur les politiques de santé publique et puis sur les modalités pratiques.
Pour dire ce que tu dis, Étienne, on sent qu'il y a quand même un paradoxe et même un double discours. À la fois, les autorités nous expliquent que Omicron est moins grave, que c'est même peut-être une chance, la dernière vague, dit Olivier Véran. Et puis de l'autre, il y a une urgence à faire voter un pass vaccinal, donc à mettre quand même des contraintes supplémentaires. C'est lui en même temps?
Non, mais on dit
Omicron, le parapluie toujours est là.
Non, mais on dit Omicron est moins grave, ce qui semble être vrai. On dit 2 à 3 fois moins grave dans ses symptômes, mais c'est 4 à 5 fois plus contagieux. Mm-hmm. De toute façon, vous avez beaucoup, beaucoup plus de cas. Et donc, le risque d'emboliser les hôpitaux et éventuellement, à terme, les services de réanimation, il est quand même réel.
Mais on a quand même du recul par rapport à...
On commence à avoir un peu de recul. Vous regardez le Royaume-Uni, oui. Comme je le disais, à 2 semaines, 3 semaines d'avance sur nous, ils chargent quand même leurs hôpitaux et ils chargent leur réanimation. Donc, si on devait avoir plusieurs centaines de milliers de cas tous les jours, pendant plusieurs jours, il y a effectivement ce sujet.
Oui, mais en même temps, vous laissez filer Omicron. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que soit il y a une vraie inquiétude et donc il faut des mesures peut-être plus sévère et en même temps finalement
mais c'est quoi parier sur le fait que Omicron c'est le confinement comme font d'autres pays européens
d'autres pays ont choisi de faire des couvre-feux des confinements
évidemment on a regardé on a regardé ce qu'a fait l'Autriche et d'autres pays et visiblement Omicron est tellement contagieux que même les pays qui ont pris des mesures de confinement connaissent de toute façon des vagues de contamination qui sont extrêmement importantes donc visiblement avec Omicron les mesures de type confinement sont peu efficaces c'est la raison pour laquelle on préfère des mesures du type passe sanitaire, passe vaccinal pour à la fois préserver les activités au sens large, garder les restos et les bars ouverts, permettre les déplacements et puis assurer qu'on
David.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour à vous.
On sait que la pertinence d'une mesure est corrélée au contrôle scrupuleux de son application et aux sanctions à l'endroit des contrevenants. Vous nous dites à l'instant que, d'ailleurs on le constate dans les transports, et dans les restaurants, dans les établissements publics, qu'il y a peu de contrôle pour le moment. Vous nous dites que vous alliez augmenter ces contrôles de 20 à 30%. On reste quand même loin
C'est pas ce que je dis, mais je vais préciser.
Ça reste quand même peu. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est pas ça qui fera de cette mesure une mesure pertinente?
Non, moi je pense qu'il y a un continuum. En fait, ce qui marche bien dans les transports, et on n'a rien inventé, on a regardé ce qu'a fait un peu le monde entier, et puis on a essayé de construire un protocole français qui est un des plus stricts d'Europe, quand même, je le dis. Donc depuis le début, on a fait, et ça c'est les mesures qui comptent, le nettoyage, la désinfection de tous les véhicules de transport, quasiment tous les jours, avec des produits viricides, de manière à se protéger structurellement. Le port du masque obligatoire, qui est d'ailleurs très bien respecté depuis mai 2020.
C'est vrai.
On a plus de 95% des gens qui portent les masques. Et globalement, à part Charles Consigny, qui est... un serial réitéreur de ces méfaits, globalement, ça se passe bien. Et ensuite, on a mis en place, effectivement, le pass sanitaire dans les transports, qui était un outil d'incitation à la vaccination. J'ai toujours assumé ça. Parce que la vaccination, c'est la meilleure arme collective qui, en plus des autres, nous permet de nous protéger collectivement. Et donc, c'est ça qu'on fait. Et sur les contrôles, vous avez raison de dire que la confiance n'exclut pas le contrôle, en quelque sorte. Et donc, encore une fois, 99% des Français, des usagers du train qui se présentent pour prendre un train, ont un pass sanitaire conforme. Mmh. Et en général, le 1%...
Oui, bien sûr. On a un pass sanitaire conforme, mais ce qui ne nous empêche pas d'être éventuellement porteur du virus.
Ah oui. Mais donc, je réponds ça, ce n'est pas tout à fait la même question. Et donc, le sujet du contrôle, on l'a évidemment bien en tête. Là, on va passer de 25-30% à un peu plus de 50% de contrôle dans les transports, parce qu'on fait le pass vaccinal, et parce que c'est rendu possible aussi par... la digitalisation de l'achat et de l'enregistrement. Mais oui, enfin, moi, vous savez, la base de la base, c'est quand même la confiance et la responsabilité. Et je le lis dans les transports, ce qu'on observe depuis le début, depuis mai 2020, on a 1 an et demi de recul, c'est que globalement, les mesures sont très bien respectées par les Français ou ceux qui...
Kauter.
La base de la base, monsieur le ministre, c'est que vous avez évoqué que cette mesure de porter des masques dans les transports était effective depuis mai 2020, effectivement, mais en mai 2020, nous n'avions pas de vaccin. Et que depuis, oui. nous avons plus de 90% de la population qui est vaccinée. Ou qui présente un test négatif à l'embarquement, à l'entrée du train, et je fais partie des personnes qui le prennent toutes les semaines, donc je sais de quoi je parle. Donc, le contrôle des passes vaccinaux qui a été mis en place à Marseille depuis à peu près 2-3 semaines crée une espèce d'embouteillage à l'embarquement qui est absolument voilà, scandaleux. Il n'y a pas d'organisation, ils ne se parlent pas entre eux, bon, c'est compliqué. Mais bon, il a le mérite d'exister depuis peu. Donc aujourd'hui, moi je pose une question. Moi je fais partie des personnes qui sont malades, mais pas que, il y a des enfants, etc. Et je prends le train toujours à midi ou le soir, donc il faut que je m'alimente, autrement je tombe dans les pommes parce que j'ai, voilà, j'ai un taux de diabète qui est toujours très, très bas. Donc, c'est le bon sens peut-être du contrôleur quand il a du bon sens, mais bon, il est lui aussi très sollicité, il travaille, etc., etc. Mais quelque part, vous nous invitez à ne pas respecter la préconisation de M. Castex, parce que lui nous a dit qu'on n'avait plus le droit de manger dans des lieux publics, etc., etc.
On a précisé donc, ça. Donc, ce qui a été précisé est précisé. Et vous pouvez manger, vous pouvez boire.
Alors, singulièrement... Je le fais dans tous les cas. Et après, on n'a pas parlé de quelque chose qui me semble important, c'est qu'encore dans les grandes lignes, on n'est pas encore concerné, mais il me semble que dans les TER, en particulier en Bretagne, dans le Grand Est, on est concerné. C'est-à-dire qu'il y a une vague de contamination, justement, Omicron, qui est très importante. Et du coup, il y a un nombre de TER qui sont annulés et les personnes ne peuvent pas aller travailler. Donc, il y a déjà assez de contraintes pour l'organisation en termes de contamination au travail, de clusters, des enfants qui ne vont pas à l'école par rapport au protocole, etc. Mmh. Et là, on n'a carrément plus de chauffeurs. Donc, si vous voulez, moi, quand je vois tous les jours, quand j'allume ma télé, que j'écoute ma radio, que j'écoute les infos, j'ai l'impression que le gouvernement découvre au micro.
Alors, je vais répondre.
Alors, ils pourraient mobiliser des jeunes recrutés chauffeurs, par exemple, pour remplacer ceux qui sont malades, etc.
Pour dire les choses de la façon la plus objective et factuelle possible, on n'a pas de vague d'épidémie particulière sur les chauffeurs des TER. On a un absentéisme à la SNCF comme à la RATP, à peu près pareil que dans le reste de la population. Aujourd'hui, c'est autour de 10%. Et on a effectivement une augmentation chaque semaine, c'est la traduction du variant Omicron. Par ailleurs, les sujets que vous évoquez en Normandie ou ailleurs, c'est souvent des sujets qui sont liés au Covid, mais pas que. On a souvent des problèmes de rames, c'était le cas dans les Hauts-de-France, des problèmes liés aux travaux. Donc les dysfonctionnements, c'est le cumul des différents sujets. Et troisièmement, et c'est le plus important, c'est le cas en Normandie ou ailleurs d'ailleurs, on a, avec le télétravail, environ 35 à 40% de passagers en moins dans les transports cette semaine par rapport au niveau normal. Donc il y a beaucoup, autrement dit, on a un tout petit peu moins de trains, environ 10% de TER en moins, et on a quasiment 35 à 40% de passagers en moins. Donc on n'a pas donc il n'y a pas d'absentéisme particulier à SNCF, on a beaucoup moins de passagers dans les transports, et on a une offre qui reste quasiment modulo certains territoires qui sont effectivement compliqués, les Hauts-de-France, la Normandie et quelques autres. Mais on a plus de trains que de passagers par rapport à d'habitude.
Allez, on continue la discussion avec le ministre des Transports qui est avec nous dans les GG aujourd'hui.
Nous sommes de retour.
Mais vous êtes pas mort, espèce de connard.
RMC jusqu'à midi.
C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi?
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
C'est malade.
Les grandes gueules.
C'est malade.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Étienne Liebig, Kauter Ben Mohamed. Nous sommes avec David Dickens, c'est le ministre des Transports, monsieur Jean-Baptiste Djebbari qui nous accompagne.
Ce qui a interpellé David Dickens, c'est le coût de la SNCF pour chaque Français. On le sait pas forcément, mais la SNCF, même si on prend pas le train, ça, voilà, on paye tous. Il y a une étude qui démontre que c'est 250 euros par Français avant même d'avoir pris un billet.
Dans n'importe quelle autre situation, ce serait absolument insupportable. Et ça rend les tensions de fin d'année, notamment des départs en vacances avec les grèves répétitives, difficilement acceptables. Est-ce qu'il y a, à moyen ou long terme, une action du gouvernement et de votre gouvernement qui permettrait de mettre fin à cette situation qui est absolument inacceptable pour les citoyens dans le contexte général actuel?
Alors, je note que les citoyens, en général, nous reprochent deux choses. C'est un, de pas assez investir dans le ferroviaire pour des motifs écologiques, et deux, que le ferroviaire coûte trop cher.
Donc, il coûte trop cher peut-être pour de mauvaises raisons.
Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire... on a réinvesti dans le ferroviaire, et je le disais, on a relancé des lignes à grande vitesse, on a sauvé les petites lignes ferroviaires partout dans les territoires, on a refait du fret ferroviaire, et on a essayé de le faire un peu différemment. On a ouvert à la concurrence. Aujourd'hui, vous avez, y compris sur des lignes grande vitesse, vous avez Trenitalia qui vient opérer entre Paris et Lyon, et par exemple, en région sud, vous avez des offres TER qui demain seront opérées par Transdev, qui est un opérateur français aux côtés de la SNCF. Ça, c'est pour la partie où on fait différemment, et donc on utilise l'argent de façon peut-être mais plus efficace.
Où va le ça reste déficitaire. Pourquoi ça coûte depuis longtemps?
Alors, déficitaire, c'est compliqué.
Mais
parce
pourquoi
que
ça coûte si cher? Pourquoi ça nous coûte 250 euros?
Ça coûte 16 milliards par an.
Français, oui. 16 milliards. Et 16 milliards, c'est pour quoi? C'est pour payer quoi? On veut qu'on
16 milliards, on peut décomposer. C'est par exemple 3 milliards par an investis pour régénérer ou entretenir les voies. Mmh. Ça, c'est de la sécurité. D'accord. C'est incompressible.
Puis il en reste 13 encore.
Il en reste 13. Vous avez toutes les politiques qui sont mises pour acheter des rames, pour renouveler des rames. On a 3 milliards d'euros pour le régime spécial de retraite, voilà, par exemple, à la SNCF.
Les retraites des cheminots, c'est 3 milliards d'euros chaque
3 milliards d'euros. C'est déjà un chiffre qu'on avait évoqué pendant la réforme des retraites. Alors tout ça, évidemment, évolue plutôt à la baisse, pour le coup, puisqu'on a mis fin au statut des cheminots, puisque avec les lois précédentes, les cheminots partent de plus en plus tard à la retraite, et donc la charge pour service public pour les retraites diminue. Bon, bref,
on va devoir éponger chaque année la dette.
Mais par contre, objectivement, alors la dette, on a repris 35 milliards d'euros en une fois.
Il y a une dette qui se crée là.
Et sauf que le groupe public, il sera à l'équilibre pour la première fois depuis des dizaines d'années, là, entre 2022 et 2024, selon les filiales du groupe. Donc on a très largement assaini la situation de la SNCF, comme aucun gouvernement l'a fait. On a repris 35 milliards de dettes, on a assaini, on a ouvert à la concurrence.
Alors, c'est-à-dire que les Français ont payé 35
milliards. L'État. Ça. Mais après, le sujet, c'est que si on commence à regarder comme ça, combien ça coûte par Français, combien les services publics
le
coûtent
France.
Par français,
on le fait pour
qui n'est pas un service public. Là, on parle d'une partie de service public. On le fait pour la santé, où on s'arrête. Parce qu'en fait, le sujet, c'est on bénéficie de services publics, évidemment, qu'on paye au travers du consommateur d'impôts.
Il faut que ça marche bien.
Donc, le vrai sujet, en fait, c'est ça.
C'est vrai sujet,
c'est que ça coûte.
Au résultat. Et là, on a
que ce soit de l'argent efficacement dépensé.
Sauf qu'on va tous à l'école, on est tous malades à un moment donné, mais on ne prend pas tous le train. C'est peut-être le seul service public
entre guillemets. Tout le monde va pas à l'école non plus. Quand t'es célibataire, non, mais tu payes l'école.
Mais un jour, il y a très peu de personnes qui n'ont pas d'enfants quand même. Oui. Voilà.
Mais beaucoup de Français prennent le train. Énormément de Français.
Monsieur le ministre, est-ce que vous regrettez les propos du président de la République quand il dit qu'il veut emmerder les non-vaccinés?
Il en a très envie.
Donc, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la forme et du fond.
Sur la forme.
Sur la forme, donc je vais répondre. Si et vous aurez autant de personnes qui vont vous dire c'est absolument fantastique parce que le président a dit tout le monde ce que tous les Français pensent tout va. Et certains qui vont dire un président ne devrait pas dire ça. Ça c'est la forme. Et si ce que je comprends avec le débat public, c'est la relation personnelle du président de la République avec les Français, moi, j'ai une bonne nouvelle pour eux. Il y a des élections présidentielles dans moins de 100 jours et les Français pourront dire ce qu'ils pensent réellement du président.
Mais vous en pensez quoi? Vous pourriez parler comme ça?
Mais
ministre,
je pense que beaucoup de Français parlent comme ça en vérité.
Le président de la République, c'est
le président de la République. Il l'a dit, c'est une interview écrite, il l'a relu, donc il sait parfaitement. Il assume ça. Ensuite, il y a le sujet du fond. Et sur le fond, le sujet, c'est de savoir si les non-vaccinés, ceux qui refusent la vaccination, font œuvre collective ou pas. Donc, je comprends très bien. Moi, j'ai autour de moi des non-vaccinés qui me disent, moi je ne veux pas être vacciné parce que pour X raisons philosophiques,
c'est pas obligatoire.
Parce que c'est pas obligatoire. Donc c'est légal de ne pas être vacciné.
Oui.
Et j'assume complètement les conséquences. Donc, je me protège, je me teste, j'assume les conséquences pendant un temps.
Donc pourquoi en disant que je vais les emmerder, les textes ne permettent pas de discriminer
quelqu'un
qui n'est pas vacciné?
Au fond, le sujet politique, c'est que on a tous compris que le vaccin, à titre personnel, c'est plutôt un bénéfice. C'est démontré, on le disait, plus de 4 milliards de personnes vaccinées, ça nous prémunit des formes graves. Et deuxièmement, je pense qu'on peut tous se dire ici qu'il est d'intérêt général de se faire vacciner.
On est tout à fait d'accord
d'intérêt
avec
général
ça.
De se faire vacciner.
C'est pas le
Donc sur le fond, c'est incontestable que si on veut œuvrer utilement en société, quand on est citoyen, on se gère soi et on œuvre un peu pour les autres. Eh ben, il faut être vacciné.
Mais quand on est président de la République, on est président de tous les Français et on ne parle pas de cette manière à une partie, on les accompagne à et on ne les insulte pas et on ne les maîtrise pas. Parce qu'on est à la plus haute fonction de l'État et qu'on est responsable de tous les Français.
C'est même pas vraiment ce qui me gêne, parce qu'à la limite,
moi ça me gêne.
À la limite, c'est un mot. Ce qui me gêne, et je suis favorable à la vaccination, même si à la quatrième dose me pose question, il y a des textes, notamment des textes européens, qui stipulent qu'on ne peut pas discriminer socialement, économiquement une personne qui se refuse à la vaccination. Est-ce qu'on ne peut pas dire que là, cette sortie va à l'encontre totale de cela? Et ce n'est pas le candidat à la présidence de la République qui parle, mais le président de la République. Est-ce que ça ne pose pas un problème?
Mais là, je pense qu'on confond deux choses un petit peu. Il y a la situation en droit, et vous avez parfaitement raison de dire le droit. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un conseil constitutionnel. Ce texte, il va certainement être déféré. Et donc, quelque part, la magistrature suprême en France dira est-ce que c'est constitutionnel, oui, non, dans quelles conditions, etc. Et après, il y a la politique.
Tout à fait.
Et la politique, quelque part, il y a des élections. Donc, si le sujet il est politique, d'accord, est-ce qu'un président d'accord doit dire ça, pas dire ça? Donc,
on verra ça dans
moi, je crois que ça va se passer comme ça.
Dans 95 jours, c'est ça le premier tour. Mais attends, je voudrais quand même parler un peu de vous. Parce que vous êtes un rôle de ministre. Moi, j'adore, hein. Je regarde vos vidéos TikTok. Je conseille,
TikTok,
je
sais pas si,
TikTok. Abonnez-vous.
De regarder les vidéos TikTok du ministre Djebbari.
Elles sont excellentes.
Elles sont excellentes. Elles sont très drôles. C'est vous qui les imaginez. Et est-ce qu'on vous a fait déjà des réflexions? Est-ce que Jean Castex vous en parle?
Alors, j'en ai parlé avec Jean Castex il y a quelques mois. Pour lui expliquer un peu le concept, mais ça l'a fait rire. Oui, on en parle un petit peu. Moi, je le fais parce que ça me ressemble, parce que fondamentalement, je fais comme ça. Et je pense qu'en politique, il faut être comme dans la vie, il faut communiquer comme on est. Et puis, je vois bien que ça plaît à un public peut-être un peu plus jeune, qui est parfois un peu plus loin de... Enfin, plus loin de la politique, c'est même pas sûr. En tout cas, qui apprend à connaître l'actualité du ministère des Transports par ce canal-là. Et donc, c'est sympa à faire. Et peut-être qu'effectivement, ça permet de voir l'actualité politique d'une autre façon.
Est-ce que du coup, vous imaginez repartir pour un deuxième quinquennat, M. Djebbari? Parce que vous venez du privé, je rappelle, vous êtes pilote. Hein.
Ouais. C'est une bonne question. J'ai pas encore arrêté ma réponse. Moi je suis... j'aurais pas dû faire de politique. Hein. Moi, je faisais autre chose. Les circonstances de la vie ont fait que, et j'ai fait 2 ans et demi de Parlement, j'aurais fait 2 ans et demi de gouvernement, et c'est déjà beaucoup. Et quand on le fait avec intensité comme je le fais.
Vous voulez vous représenter aux législatives, par exemple?
Ouais, j'ai pas arrêté ma décision. Je vous le dis vraiment, hein. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas vocation à faire de la politique, un métier. D'ailleurs, je pense qu'en fait, en vrai, c'était un peu la promesse de la Macronie au sens général. C'est vous venez avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Vous le faites avec intensité, puis vous partez faire autre chose.
Piloter, ça vous manque?
Alors, je pilote encore un peu, parfois le week-end. Ça manque toujours, mais j'aurais peut-être aussi envie de faire autre chose. J'ai beaucoup travaillé dans l'aviation.
Comme pharmacien,
ça paye bien.
Pharmacien, directeur, je sais pas.
Vous êtes en pleine interrogation. Pas sûr de continuer en politique.
Ah non, pas sûr de continuer en politique. Moi, vous savez, moi, ce qui compte pour moi, c'est de me sentir utile là où je suis et de le faire avec intensité et y compris avec un peu de distance. Et non pas de m'amuser parce qu'on s'amuse pas en politique, mais voilà, d'y trouver du sens. Donc c'est ça qui compte pour moi.
Peut-être que vous êtes arrivé un peu au bout, là, en bout de piste.
On verra. Bravo. Écoutez, on verra, ça dépendra. Moi, j'ai fini les 100 jours, je les fais à fond.
J'ouvre le parachute.
Et après, je déciderai pour moi-même.
Et du coup, c'est quoi qui vous intéresse pour la suite?
Mais moi,
vous n'avez pas forcément envie de retourner.
Moi, on ne se connaît pas beaucoup, mais j'ai déjà fait pas mal de choses dans la vie avant. Et moi, en fait, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile dans ce que je fais et de pouvoir faire la différence là où je suis.
Eh bien, bravo.
Il y a plein de secteurs
dans lesquels on devrait entendre régulièrement.
Merci, monsieur le ministre des Transports.